9h24. Notre invité a écrit un livre, le titre donné, le sous-titre « La révolution du partage ». C'est, en résumé, quelqu'un qui vient nous dire que de partager avec les autres, c'est important. Et en même temps, pour faire un partage réussi, il faut faire confiance. Alexandre Mars, bonjour.
Bonjour, Paul.
D'abord, on va parler de vous un peu pour expliquer comment vous en êtes arrivé à poser ces gestes. Vous dites d'entrée de jeu dans le livre, je viens d'un milieu qui n'est pas super aisé, mais quand même un milieu privilégié par rapport à beaucoup d'autres compatriotes français.
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, j'assume, j'ai eu la chance d'être bien né. Et c'est un petit peu le principe qui aujourd'hui habite ma vie, c'est essayer d'aider, essayer de changer la trajectoire des malchanceux que j'appelle les malchanceux du premier jour, les gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Et ils sont nombreux.
Et cette prise de conscience est arrivée dans quelles circonstances?
Essentiellement ma maman. Moi, j'ai grandi justement avec quelqu'un qui, dont son quotidien mettait l'aide des autres. Et vous le savez très bien, Paul, souvent, aider quelqu'un, c'est certainement la plus belle des choses qui peut nous arriver. On a peut-être un peu oublié ça depuis des années, ici et ailleurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Vous le voyez comme moi au quotidien. De plus en plus de gens se disent, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait depuis ces dernières années? Comment on a pu accepter l'inacceptable et toujours penser qu'on est dans un monde très vertical? Celui qui était en haut allait décider pour nous. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on rentre dans un monde qui est horizontal. C'est qu'on peut faire des petits gestes, mais ces gestes-là, si on s'y met tous, ce partage-là dont on parle, ben on peut vraiment avoir un impact considérable.
Si je reviens au plan de la carrière, vous avez œuvré dans ce qu'on appelle les start-up, par exemple, vous avez aidé au démarrage d'entreprise. Quand on fait ça, on n'est pas animé par une seule idée, c'est-à-dire faire de l'argent, maximiser le profit et moins penser aux autres, finalement.
Non, très bonne question. Quand j'ai démarré ma première entreprise, j'avais 17 ans, Paul. Et dans mon idée, c'était, je sais que rapidement, à l'époque, je pensais qu'en 5 ans, j'allais être le prochain Bill Gates. Je me suis dit, c'est facile, réussir. Mais mon idée, c'était d'avoir les moyens pour pouvoir les utiliser. D'abord, c'était pour protéger ma maman. Et puis après, me dire, cet argent-là va m'aider à pouvoir avoir ma propre décision sur ma vie future. Et puis, ça m'a pris plus de temps que prévu de réussir. Mais ça m'a jamais quitté depuis que je suis tout gamin. Ma vie est une mission. Je suis là pour lutter, combattre. Et c'est mon quotidien, Paul. Combattre pour ceux qui ont moins de chance. Et oui, j'ai compris très jeune que l'argent allait être mon meilleur moyen. Meilleur moyen pour qu'on m'écoute. Meilleur moyen pour faire passer ces idées-là. Meilleur moyen pour ne pas avoir à accepter parfois des choses que je n'avais pas envie d'accepter. Alors ça m'a pris du temps d'y arriver. Et en effet, je suis rentré dans l'Internet, dans le mobile, dans les médias sociaux. Et tous les 5 ans, je montais une entreprise, je la développais et je la vendais. Mais pas pour m'acheter 3 bateaux ou 4 avions, pour avoir les moyens de mes ambitions.
Vous faites allusion à quelques reprises dans le livre à la fondation de Bill et Melinda Gates en disant, bon, ben ils ont beaucoup d'argent, mais ils peuvent faire la différence, ils ont décidé de le faire. Puis là, j'entends des sceptiques peut-être qui se disent, écoutez, quand on a autant d'argent, quand on l'était à l'époque, la personne la plus riche, qu'est-ce que c'est que de redonner quand même de l'argent quand déjà la fortune est colossale?
En fait, vous avez raison, mais ce n'est pas une question de pourcentage. Moi, j'ai eu les mêmes réponses des gens qui me disent, oui, mais ils ont 100 milliards, alors donner 2 milliards. Mais on est déjà dans le jugement. On est dans une société où on juge. On juge parce que vous êtes grand, parce que vous êtes petit, parce que vous avez une couleur de peau, parce que vous avez l'accent, parce que vous n'avez pas l'accent. Il faut qu'on arrive à dépasser ça. Et c'est vrai que quand les gens font, il faudrait déjà mettre ça en avant. Et puis regardez, il y a une autre personne qui a dépassé aujourd'hui Bill Gates, qui s'appelle Jeff Bezos. Et ben, je vous assure qu'il n'est pas aussi philanthrope. Et donc, quand on a la chance d'avoir des bons exemples, ben autant qu'on les acclame. Ce qui est important de noter, c'est que moi, je ne crois pas que les Bill Gates de ce monde peuvent tout changer. Je pense que la philanthropie, l'entraide, la solidarité, c'est un travail de chacun, de vous, de moi, de tous les auditeurs. C'est à chacun de pouvoir faire. Et le livre dont vous parlez est justement un manifeste avec tout un tas de solutions. Ne pensez pas qu'il faut être richissime pour faire. Ne pensez pas que les gouvernements doivent faire.
Non, chacun mais vous dites faire. En même temps, il faut accepter de faire confiance, quitte à peut-être être perçu comme un naïf. Donc, quand on prend cette direction, quand on s'engage, il faut faire confiance aux gens avec qui on se retrouve.
Ben vous avez raison.
C'est ce que vous dites là.
Mais oui, parce que souvent, moi j'ai commencé ce raisonnement en posant les questions au Paul ou Alexandre de ce monde que j'allais voir. Je dis, mais Paul, dites-moi, est-ce que vous avez donné l'année dernière ce que vous avez fait? Et les gens me répondaient, bien sûr, Alexandre. Et je leur posais la question, mais est-ce que vous pensez avoir fait suffisamment? À votre niveau, hein, je dis pas. Et la majorité des gens, vous savez quoi, Paul, ils me répondaient, non. Et je dis, mais pourquoi? Ils me disaient, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la connaissance. Donc vous savez, je vais me limiter au minimum, minimum. Et bien aujourd'hui, cette question de confiance est un sujet considérable et essentiel. Si vous pouvez re-avoir cette confiance-là, et nous, c'est ce que nous faisons au quotidien dans cette organisation qui s'appelle EPIC, que je dirige, on essaie justement de trouver des organisations, de pouvoir promouvoir en fait cette solidarité en faisant que les gens puissent avoir à nouveau confiance parce que des entrepreneurs sociaux, des ONG exceptionnelles existent. Et c'est vrai qu'on a été, parce qu'on a eu des scandales qui ont eu lieu ces dernières années.
Je vais vous le dire, parce qu'il y a des gens ont vu une série de scandales, de l'argent détourné, de l'argent qui faire des dons et t'apprends que ça ne se rend pas à destination, que c'est intercepté. C'est pas toujours la responsabilité de l'organisme. Ça peut arriver dans certains pays avec des régimes totalitaires. Mais il y a des gens qui sont sceptiques, qui disent, si, moi je veux donner, je veux bien, mais est-ce que ça se rend? Est-ce que quelqu'un va en profiter à des fins personnelles?
Mais vous avez mille fois raison, et les gens qui pensent ça ont raison. C'est pour ça que on a étudié ça et on s'est dit comment répondre à ça. Nous, c'est très simple. Chez EPIC, j'ai décidé d'autofinancer tous les frais de structure. Ce qui veut dire que demain, Paul, si vous dites, Alexandre, c'est très important ce que vous faites, j'ai confiance. EPIC, nous, on lutte pour changer la vie des plus défavorisés dans 5 régions du monde. Vous me dites, Alexandre, je vais donner 1 dollar. Ben, vous saurez que 100% de votre dollar va aller à la cause. Pour répondre justement à cette problématique en disant, mais combien va vraiment aller sur le terrain? Est-ce que c'est 80%? Est-ce que vous voyagez en première, monsieur Mars? Et nous, on comprend ça. C'est pour ça qu'on a changé un petit peu on a changé le paradigme pour apporter une solution différente.
L'autre question qui revient, c'est la responsabilité des gouvernements. Est-ce que c'est à des fondations, que ce soit en éducation, en santé, peu importe, à d'abord solliciter des dons et à dépenser? Et c'est une option. Ou encore, l'autre option, c'est celle des gouvernements en disant « Je suis taxé. Au Canada, nous sommes taxés pas mal. Et c'est donc à l'État de prendre en charge ces vocations. »
Eh bien, moi, quand je parle avec mes copains québécois, ils me disent « Alexandre, mais moi, je suis philanthrope. » Certains me disent, et je lui dis « Raconte-moi, qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Je paie mes taxes. » Parce qu'en effet, les taxes existent partout. Hein. Il y a rarement des pays où ils n'existent pas. Nous, ce que nous disons, on n'est pas du tout libertarien, ce qui veut dire qu'on ne croit pas que le privé doit remplacer le public, pas du tout. Ce qu'on sait très bien, et il faut quand même regarder la réalité, c'est que le public, les pouvoirs publics sont à certaines limites. Ils sont pour la plupart assez endettés ou très endettés, et que l'argent, le pouvoir aujourd'hui financier, le second poumon est dans les entreprises. Donc nous, on ne croit pas que ça soit juste d'un côté ou de l'autre, on ne pense pas que c'est un ou B, on pense qu'au niveau des entreprises, de plus en plus, les Alexandre et Paul de ce monde vont plus accepter de travailler pour des entreprises qui ne mettent pas cette idée de sens, de bien social au cœur de leur activité, et à terme, on va arrêter d'acheter des produits. C'est-à-dire qu'on va revoir de plus en plus, et essentiellement cette génération de moins de 30 ans.
Oui, parce que là, vous nous amenez vers une autre question, qui est jusqu'à quel point des entreprises vont utiliser la notion de partage, d'aide, vont parrainer des organismes strictement pour des raisons de marketing, là, et qu'il n'y a pas une intention réelle. C'est pour avoir l'air correct et donc de donner de la valeur à leurs produits.
Moi, je pense que c'était faisable peut-être ça il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, grâce essentiellement à la communication, aux réseaux sociaux, à l'Internet, au digital, on ne s'est plus floué. On pense que si une entreprise fait le bien, ça va être facile. Ce n'est pas uniquement faire un chèque pour donner une somme à la fin de l'année. Je pense que nous savons très bien, et on le voit quand on parle avec les entreprises, les grandes entreprises ici ou ailleurs, elles nous disent c'est de plus en plus compliqué d'embaucher des jeunes de moins de 30 ans. Et puis c'est compliqué de les garder. Et nous, ce qu'on voit, c'est ça va aller vers vous savez quoi, moi j'arrête d'acheter votre produit. Et vous allez voir arriver de nouvelles banques, vous allez arriver à avoir de nouveaux assureurs, vous allez voir arriver des nouvelles marques qui vont se construire sur une vision un petit peu différente en disant, il n'y a pas que le profit, pour répondre à votre première question, Paul, mais ce sens, ce partage, cette solidarité doit aussi être par rapport à ça. Qui a décidé, Paul, que dans telle industrie, vous deviez avoir 22% de marge? Qui l'a défini? C'est-à-dire qu'on a créé une sorte de bête dans le sens le plus terrible qui existe, qui fait que certaines entreprises aujourd'hui ont oublié que l'humanité ne pouvait pas uniquement diriger par juste une quête continuelle.
Mais est-ce que vous le sentez, parce que bon, vous voyagez beaucoup, Parce qu'en même temps, les chiffres montrent que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse d'augmenter, que dans beaucoup de pays, les poches de pauvreté se multiplient. Bref, qu'on n'est pas vers une société plus égalitaire, on est dans une société qui est encore aux extrêmes. Là.
Oui, mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit beaucoup plus que ceux qu'on voyait il y a 20 ans quand je venais ici. La pauvreté, elle était loin, elle était en Afrique, des choses. Aujourd'hui, la pauvreté, elle est présente, soit dans nos rues, dans nos quartiers, soit elle arrive tous les jours sur nos plateformes Internet ou digitales. Ça, c'est un vrai changement. Ce qui veut dire qu'en particulier, moi je le vois quand je vais aux universités ici à Montréal ou ailleurs, c'est toujours la même chose. Je vois cette génération-là qui dit « je ne travaillerai plus pour ces entreprises ». Et quand vous avez cette génération-là qui pense ça, elle le fait. Elle le fait réellement, elle ne veut plus travailler, elle va. Et donc là, vous avez des changements de nouveau, qui sont des changements très forts, qui sont amenés pas par les gens qui sont tout là-haut, parce que ça ne marche plus. Le top-down ne fonctionne plus comme il a fonctionné pour vous et pour moi pendant des années et des années.
Quand vous voyagez, et vous l'avez dit, on a, c'est quoi, c'est cinq régions.
Cinq régions.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, le plus touché finalement?
C'est de voir vraiment que cette inégalité, elle n'est pas voulue. Cette inégalité, c'est la malchance. Alors là, il y a des moments où on va travailler beaucoup, mais dans certains cas, même si vous travaillez énormément, si vous n'avez pas cette chance au départ, votre vie, dès le départ, elle ne sera jamais celle qui pourrait être la vôtre. Et ça, cette inégalité du premier jour est ce qui est le plus frappant. Ce qui est de l'autre côté intéressant, c'est qu'on voit des entrepreneurs sociaux, des jeunes qui montent des programmes qui sont exceptionnels pour justement que cette manque d'égalité au départ puisse être un petit peu estompée. Et donc, ce qu'on voit au quotidien, c'est de plus en plus de gens qui disent « je veux faire, comment faire ?» Ce livre, et qu'à partir de ça, c'est « comment tu peux faire ?»« Comment toi tu peux faire ?»« À quel moment ?» Et ça va vraiment être « allez voir votre entreprise, on a plein de solutions, comme vous l'avez lu, Paul, dans le livre, qui veut dire « vous pouvez faire ça sur votre feuille de salaire, vous pouvez faire ça dans votre restaurant préféré. » Nous, on monte plein de programmes, par exemple, Grand Corps Malade que vous connaissez, cet artiste a décidé de donner 1% de tous ses profits au bien social. En plus de ses taxes, il a dit, moi, c'est important pour moi. Le football, le soccer, par exemple. On le voit en France, ils ont décidé de donner de l'argent à chaque fois qu'il y a un but qui est marqué. Vous imaginez le Canadien qui, chaque fois qui marque...
Le Canadien donne des ailes de poulet ici.
Mais peut-être qu'il pourrait donner des ailes de poulet et plus ça. Et puis en plus, s'il va en play-off, ce qu'on peut espérer, et ça, c'est juste simple. Et les gens qui sont dans le stade, ils ne sont pas en train de juste prendre un play. Ils se disent, tiens, en plus, il y a un côté positif dans cet événement-là. Et donc, on monte tout un tas de solutions qui font que cette solidarité qui manque dans notre société, et vous le savez aussi bien que moi, Paul, est à nouveau un petit peu plus présente. Et nous, on pense que ça prendra des années et des années, mais il n'est pas normal que dans chacun de nos actes, chaque position que nous avons, et en particulier dans les entreprises, on ne sente pas plus ce système-là, ce sentiment-là qui fait que, oui, on peut partager un petit peu. C'est à vous de décider quel est le partage, mais chacun peut faire.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Alexandre Mars, le titre du livre « Donner, la révolution du partage », 9h38, la pause et on vient après pour la suite.